Au fil des pages.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Anne Muratori Philippe.
Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de Madame du Châtelet. Pourquoi Madame du Châtelet ? Parce que nous célébrons cette année le 3e centenaire de sa naissance. Nous avons un petit peu le temps parce qu'elle est née le 17 décembre 1706, donc nous avons toute l'année pour célébrer cet anniversaire. Mais il y a deux événements importants, il y a deux expositions, l'une à la Bibliothèque nationale de France sur le site Richelieu, qui évoque la femme des Lumières, et une autre au château de Breteuil, dans les Yvelines, qui est le berceau de sa famille et qui évoque donc cet ancêtre célèbre. Alors, Émilie du Châtelet est la fille de Louis-Nicolas le Tonnelier de Breteuil, donc un nom prestigieux qui a servi les rois de France, et elle est aussi la fille de la seconde épouse de Monsieur de Breteuil, Gabrielle-Anne de Froulay. C'est une noblesse militaire. Son père, le marquis de Breteuil, a été l'introducteur des ambassadeurs et le roi de France lui a trouvé, après bien des vicissitudes dans sa vie, le roi de France, Louis XIV, lui a trouvé ce poste où il a excellé et où il a eu une renommée à tel point que, à l'étranger, Monsieur de Breteuil était une personnalité que l'on considérait beaucoup. Donc la petite Émilie, née dans cette famille en 1706, c'est une famille qui se compose de 6 enfants. Sur les 6, 3 seulement survivront, 2 garçons et Émilie. Alors, elle a une éducation très particulière parce que son père, qui est un libéral, a décidé de lui donner la même éducation que ses frères. Donc, elle ne va pas aller au couvent, comme toutes les jeunes filles de son époque. Elle va habiter l'hôtel particulier et familial, d'abord près de Saint-Roch, où ils ont une vue sur les Tuileries. Là, la famille de Breteuil occupe le premier étage. Tout le reste de deuxième et troisième étage appartiennent à d'autres Breteuil, à des cousins. Et le quatrième étage est dévolu aux enfants. Les 3 enfants Breteuil vivent au quatrième, mais contrairement à la tradition qui veut que ce soit les enfants qui, à des heures précises, descendent rendre visite aux parents, là, il n'en est pas question, ce sont les parents qui montent de temps en temps voir leurs enfants. Donc, une éducation assez originale. La petite Émilie vit la vie de ses 2 frères, qu'elle adore d'ailleurs. Et puis, cette éducation est très libre, car elle a un accès direct à la bibliothèque paternelle. Elle peut y prendre les livres qu'elle veut, à la condition de les commenter avec son père. Elle est autorisée à avoir une Bible dans sa chambre, et elle pose très souvent des questions sur ce qu'elle lit à sa mère. Elle lui demande, enfin elle discute les écrits et elle demande des explications. Elle reçoit une très bonne éducation en latin et son père, lui, l'initie à l'anglais et à l'italien. Mais alors, ce qui est très original pour une jeune fille, c'est qu'on va l'initier aux mathématiques et à la métaphysique. C'est jusqu'alors des matières réservées aux garçons et elle reçoit pourtant des leçons particulières car on s'est rendu compte qu'elle avait un certain don pour les mathématiques. Alors, très jeune, la petite Émilie se distingue car elle traduit des morceaux de l'Énéide, elle apprend par cœur des passages d'Horace, de Virgile, de Lucrèce. Et puis, elle est attirée aussi par la philosophie anglaise, très jeune, et elle arrive à lire Locke dans le texte. Et puis alors aussi, autre particularité très originale et qui va jouer un grand rôle dans la vie de cette petite Émilie, c'est qu'elle est autorisée à rester au salon lorsqu'il y a des visiteurs, et des visiteurs de marque, notamment Fontenelle, Maupertuis. Et la petite fille, la petite adolescente qu'elle commence à être, a l'autorisation de converser avec Fontenelle et elle lui demande d'ailleurs de se faire raconter, par l'auteur lui-même, ses entretiens sur la pluralité des mondes. Et Fontenelle se prend au jeu, il lui parle de physique, d'astronomie et il lui fait même lire des communications de l'Académie des sciences. Il ne faut pas oublier donc Fontenelle et le secrétaire perpétuel. Et il lui prête notamment des rapports de Cassini sur Saturne, puisque c'est la grande période où Cassini a fait ses travaux sur Saturne. Cette petite Émilie grandit, est une petite fille très sage, qui pense au travail et qui passe son temps en traduction, à lire beaucoup. Mais vient le temps des épousailles. En 1725, son père la marie avec monsieur Florent Claude Marquis de Châtelet. Pourquoi il la marie si vite? C'est qu'il a deux garçons à élever, que la fortune n'est pas immense malgré le nom, et qu'il préfère caser sa fille dans une famille de la haute noblesse lorraine, qui, bien que étant sans le sou, descend de Charlemagne, descend des ducs de Lorraine, a un nom et appartient à la grande noblesse, ce qui permettra à la fille de Breteuil d'avoir le titre de marquise et aussi d'avoir un tabouret à la cour et d'être reçue à la cour. C'est très important. Donc, on la marie à ce marquis du Châtelet. Elle a 19 ans et c'est franchement un mariage de convenance. Pourtant, elle a très rapidement une fille et deux garçons. Mais là aussi, elle s'occupe absolument pas de ses enfants. Inès, ils sont élevés par le personnel, elle les voit jamais, mais en plus, elle n'a aucune émotion de mère, elle n'en parle pas, elle ne les évoque pas, à part le dernier garçon qui meurt peut-être 6 mois après sa naissance et dont elle écrit une lettre. Elle évoque sa mort à Maupertuis où elle dit qu'elle a ressenti une émotion, qu'elle s'est rendue compte qu'être mère, c'était quelque chose et que perdre un enfant, c'était important. Donc voilà notre marquise du Châtelet, mariée avec un mari qu'elle aime bien, mais sans plus. Et rapidement, ils vont chacun vivre de leur côté. Et c'est à ce moment-là que la marquise du Châtelet commence à devenir une personnalité que l'on connaît bien à Paris, qui fréquente les salons avec ses cousines. Et petit à petit, elle devient une sorte de femme savante qui est plus ou moins bien croquée et admise par certaines personnes, car c'est la grande période des salons. Il y a le salon de Madame Geoffrin, il y a le salon de Madame du Deffand. Et cette Madame du Deffand qui fait la pluie et le beau temps et qui est extrêmement méchante, n'apprécie pas cette jeune beauté qui émerge et qui se dit savante. Et elle en a brossé un portrait au vitriol que vous allez découvrir.
Représentez-vous une femme grande et sèche, sans cul, sans hanches, la poitrine étroite, deux petits tétons arrivant de fort loin, des gros bras, de grosses jambes, des pieds énormes, une très petite tête, le visage aigu, le nez pointu, deux petits yeux verts de mer, le teint noir, rouge, échauffé, la bouche plate, les dents clairsemées et extrêmement gâtées. Voilà la figure de la belle Émilie, figure dont elle est si contente qu'elle n'épargne rien pour la faire valoir. Frisure, pompons, pierreries, verreries, tout est à profusion. Mais comme elle veut être belle en dépit de la nature et qu'elle veut être magnifique en dépit de la fortune, elle est souvent obligée de se passer de bas, de chemises, de mouchoirs et autres bagatelles. Née sans talent, sans mémoire, sans goût, sans imagination, elle s'est faite géomètre pour paraître au-dessus des autres femmes, ne doutant point que la singularité ne donne la supériorité. Le trop d'ardeur pour la représentation lui a cependant un peu nui. Certains ouvrages donnés au public sous son nom et revendiqués par un cuistre a semé quelques soupçons. On est venu à dire qu'elle étudie la géométrie pour parvenir à entendre son livre. Sa science est un problème difficile à résoudre. Elle n'en parle que comme Sganarelle parlait latin devant ceux qui ne le savaient pas. Belle, magnifique, savante, il ne lui manquait plus que d'être princesse. Elle l'est devenue, non par la grâce de Dieu, non par la grâce du roi, mais par la sienne. Ce ridicule a passé comme les autres. On la regarde comme une princesse de théâtre et on a presque oublié qu'elle est femme de condition.
Émilie, bien sûr, malgré ce portrait, vous allez voir qu'elle ne fréquente pas n'importe qui. Elle a un sens aigu des hiérarchies. Et finalement, elle adopte facilement un air de protection, voire de supériorité, je dirais même à la lire, plutôt de mépris, avec les personnes d'une condition moindre que la sienne, mais qui sont quand même de l'aristocratie. Par exemple, elle a une cousine, Madame de Graffigny. Cette pauvre Madame de Graffigny, par exemple, à l'opéra, la marquise du Châtelet se trouve à l'opéra en compagnie de la duchesse de Richelieu, et Madame de Graffigny partage leur loge. Madame de Graffigny veut s'installer aux côtés de ces deux dames, de ces deux cousines en plus, et voilà que Madame du Châtelet refuse et lui fait remarquer que le siège qui est prévu à côté d'elle est pour le duc de Richelieu, et qu'il n'est pas question que Madame de Graffigny ose aller au devant de la scène et aller renvoyer du côté des serviteurs. C'est un petit exemple, elle est extrêmement redoutable, Émilie, et beaucoup de personnes d'ailleurs ne l'aiment pas à cause de cela. Alors, Émilie poursuit ses travaux, et Émilie, de par le salon de son père, a rencontré Maupertuis. Et elle demande des cours de mathématiques à Maupertuis, et de fil en aiguille, elle va devenir la maîtresse de Maupertuis. Elle inaugure cette grande période où elle devient une femme savante qui court les aventures, car elle a trois grandes passions. Elle a l'amour, le jeu et l'étude. Alors le jeu, elle l'assouvit très facilement car comme elle a ses entrées à la cour, que c'est la grande période de Marie Leczinska qui adore elle aussi, qui a une passion folle du jeu, Madame du Châtelet y est conviée. Elle y va très souvent, elle y perd des fortunes et elle va jouer ailleurs, elle va dans les autres salons. Elle est prête, se disent les méchantes langues, à aller jouer dans n'importe quel boui-boui de Paris. L'essentiel, c'est qu'elle veut, il faut qu'elle joue, elle joue jusqu'à des 3-4 heures du matin. Et puis, notre Émilie va faire en 1733, dans le salon de ses parents, elle croise un personnage qui a déjà une aura assez importante, c'est Voltaire. Et elle en tombe amoureuse tout en étant un petit peu admiratrice, enfin elle l'observe, elle le connaît pas très bien. Et finalement elle tombe vraiment amoureuse de lui et c'est là qu'elle se pose la question entre Maupertuis et Voltaire, lequel choisir, et elle se rend compte que Maupertuis se moque un petit peu d'elle et du coup elle va opter pour Voltaire. Tout en étant quand même très mécontente lorsque, 3 ans plus tard, elle apprend quand même que Maupertuis l'a remplacée, bien sûr, d'ailleurs il l'avait pas attendu, et elle, en 1736, elle lui envoie une lettre extrêmement désagréable. Bien que leur aventure soit terminée, on se rend compte qu'elle est extrêmement jalouse.
J'étais prête à vous pardonner votre silence, tous vos torts, mais on m'a rapporté de terribles nouvelles de Paris, où il est public que vous m'avez quitté pour Madame la Duchesse de Richelieu. Elle s'en vante hautement. Vous avez bien gagné. Votre écolière est assurément plus capable de vous faire honneur et de profiter de vos leçons, mais elle ne pourra pas en avoir plus de reconnaissance que moi. On dit que vous allez rendre ces leçons publiques comme Monsieur de Cambrai les thèmes de Monsieur le Duc de Bourgogne. J'ai répondu à cela que, du moins, j'en profiterai. J'espère que Madame de Richelieu se souviendra que c'est moi qui lui ai procuré votre connaissance.
Alors, notre Émilie va filer le parfait amour avec Voltaire et ils vont quitter Paris. En 1735, elle met le cap sur Cirée. Il faut dire que Voltaire a des petits soucis à Paris. Il n'est pas très bien apprécié à la cour. Le roi Louis XV le tient assez loin. Il a en plus, ils ont été avec Madame du Châtelet, ils se sont fait très mal voir un soir au jeu chez Marie Leczinska. Voilà que Madame du Châtelet perdait une énorme somme d'argent et elle jouait et Voltaire s'est impatienté et lui a dit « Madame, cessez ce jeu, vous voyez bien que vous êtes entourée de fripons ». C'était difficile de dire une chose pareille lorsqu'on pense que la reine était présente. Et Voltaire et Madame du Châtelet se sont dit qu'il valait peut-être mieux prendre le large et ils sont partis s'installer à Cirée, qui est une propriété du marquis du Châtelet. Donc là, on voit vraiment que le couple s'entend bien et que Monsieur du Châtelet est vraiment tout à fait ouvert au débordement de sa femme. Il accueille à Cirée Voltaire et Madame du Châtelet qui vont passer plusieurs années. Et Voltaire va raconter dans ses mémoires, il y a un petit passage où il évoque l'époque du départ à Cirée qui, je trouve, résume bien la chose.
J'étais là de la vie oisive et turbulente de Paris, de la foule des petits maîtres, des mauvais livres imprimés avec approbation et privilège du roi, des cabales des gens de lettres, des bassesses et du brigandage des misérables qui déshonoraient la littérature, je trouvais en 1733 une jeune dame qui pensait à peu près comme moi et qui prit la résolution d'aller passer plusieurs années à la campagne pour y cultiver son esprit loin des tumultes du monde.
Voltaire et Madame du Châtelet vont se livrer à cirer à des travaux, ils vont beaucoup écrire, et en même temps Voltaire va mettre son argent dans cirer, c'est-à-dire qu'il va restaurer le château, et il va même s'installer des appartements, il va créer une bibliothèque pour Madame du Châtelet et un cabinet de science avec des instruments magnifiques, les premiers microscopes comme en avait Stanislas, tous les objets d'expérimentation scientifique sur l'électricité, Madame du Châtelet les aura. Ils sont vraiment admirablement installés. Les méchantes landes disent qu'elle avait voulu ce genre de laboratoire parce qu'elle pensait toujours y attirer Maupertuis, mais que Maupertuis a toujours fait la sourde oreille et n'est jamais venu à Ciré. Alors la vie à Ciré n'était pas non plus que des travaux d'écriture. Il recevait, il y avait beaucoup de gens de passage qui venaient les voir. Et on y faisait de la musique, du chant, parce que Madame du Châtelet jouait du clavecin et avait une très belle voix, elle chantait très bien. Donc il y avait beaucoup de spectacles. Le matin était consacré au travail, la nuit même, puisque Madame du Châtelet écrivait jusqu'à 3-4 heures du matin. Les fins d'après-midi étaient consacrées au théâtre, à l'opéra. Et on y jouait beaucoup, et Émilie jouait elle-même la comédie, et elle entraînait aussi Voltaire, qui était obligé de se plier à sa volonté, car elle était extrêmement dominatrice, et elle exigeait que tout le monde marche à la baguette, tous ses invités. Et parmi ses invités, cette fameuse cousine, Madame de Graffigny, qui est l'auteur de Cénie, qui est un personnage important, qui a joué un rôle assez important à la cour de Lunéville. Cette Madame de Graffigny a séjourné à Ciré, et elle raconte la vie trépidante qu'on y mène, et vous verrez, c'était pas de tout repos.
On ne respire point ici. Nous jouons aujourd'hui l'enfant prodigue et une autre pièce en trois actes dont il faut faire les répétitions. Nous avons répété Zahir jusqu'à 3 heures du matin. Nous la jouons demain avec la sérénade. Il faut se friser, se chausser, s'ajuster, entendre chanter l'opéra. Oh, quelle galère! Nous avons compté hier au soir que dans les 24 heures, nous avons répété et joué 33 actes, tant tragédie, opéra que comédie.
La vie à Ciré est une vie très agréable. De temps en temps, Voltaire et Madame du Châtelet sont invités à la cour de Lunéville, bien sûr. Mais ils sont obligés, à un moment donné, de quitter Ciré parce que Madame du Châtelet a des problèmes d'héritage à Bruxelles. Donc, ils vont partir. Voltaire et Madame du Châtelet vont vivre à Bruxelles quelques années. Ils ne s'y plairont pas. Elle estime qu'on ne peut pas discuter science avec la société de Bruxelles et ça ne lui plaît pas du tout. Ce qui fait qu'elle règle assez rapidement les problèmes d'héritage et elle décide parallèlement de s'intéresser à des travaux d'écriture. Son but est en fait de laisser une trace. C'est pas en étant la maîtresse de Voltaire, ça suffira pas pour Émilie du Châtelet. Elle veut laisser une trace écrite, elle veut devenir une femme célèbre par ses écrits. Donc elle poursuit ses travaux et elle s'intéresse aux travaux de Newton. Et puis elle décide, en fait elle s'offre le luxe, elle demande à un savant, Monsieur Koenig, un Allemand, de venir lui expliquer la physique leibnizienne. Et elle étudie donc Leibniz grâce à cet Allemand. Et petit à petit, elle crée une sorte de méthode de physique, ce qu'elle appellera plus tard les institutions physiques. En fait, c'est un document qu'elle écrit soi-disant pour son fils. Quand on sait qu'elle ne s'occupe absolument pas de ses enfants, c'est assez étonnant. Elle adresse ce texte, ce document à son fils. Et en 1740, elle va le publier. Alors, il y aura un petit incident, c'est que le monsieur Koenig, qui entre-temps était aussi devenu son amant, s'est fâché avec Émilie. Et lorsqu'en 1740, les institutions de physique paraissent, Koenig prétend qu'il en est l'auteur. Ce qui fait que toutes les méchantes langues, toutes les Madame du Deffand, Geoffrin et compagnie crient au scandale, disant que, voyez, c'est une fausse savante, etc. Alors que l'Académie des sciences, Maupertuis et les autres savants, Clairant et compagnie, estiment et rendent hommage au travail d'Émilie du Châtelet. Alors, j'ai choisi, pour un petit peu expliquer les travaux d'Émilie, un petit passage où Voltaire rend hommage dans une épître dédicatoire des éléments de la philosophie de Newton, qui paraîtra en 1748, à la femme savante, parce que je trouve que ça illustre bien Émilie.
Madame, lorsque je mis pour la première fois votre nom respectable à la tête de ces éléments de philosophie, je m'instruisais avec vous. Mais vous avez pris depuis un vol que je ne peux plus suivre. Je me trouve à présent dans le cas d'un grammairien qui aurait présenté un essai de rhétorique ou à Démosthène ou à Cicéron. J'offre de simples éléments à celle qui a pénétré toutes les profondeurs de la géométrie transcendante et qui, seule parmi nous, a traduit et commenté le grand Newton.
Émilie va travailler, va poursuivre ses travaux, mais dans le petit texte de Voltaire que vous venez d'écouter, il évoque qu'ils ont débuté ensemble leurs travaux. Et en effet, en 1737, l'Académie des sciences avait mis au concours des travaux sur la nature du feu et sa propagation. Et Voltaire avait décidé d'y concourir. Du coup, Madame du Châtelet a décidé elle aussi d'y concourir. Et dans le plus grand secret, elle a composé son texte, elle l'a envoyé à l'Académie des sciences. Et malheureusement, bon, les deux textes, celui de Voltaire et de Madame du Châtelet, n'ont pas été primés, mais ils ont été publiés. Et c'est donc la première fois que Émilie du Châtelet a été publiée. Mais depuis, donc, comme dit Voltaire, l'élève est allée très loin, elle l'a dépassée. Elle l'a dépassée à travers son traité de physique, qui a été traduit en italien et qui a été aussi traduit en allemand parce que comme c'était une apologie de la pensée de Leibniz, forcément les Allemands ont commencé à s'intéresser aux travaux de Madame du Châtelet et même si Frédéric de Prusse après se moquait et moquait Voltaire de cette tendre Émilie qu'il ne voulait pas quitter, c'est pour ça qu'il restait auprès de Stanislas et qu'il, alors qu'il le réclamait lui en Prusse. Donc Émilie poursuit toujours ses travaux. Mais Émilie rencontre à la cour de Lunéville un personnage, le marquis de Saint-Lambert, qui la subjugue. Il faut dire que après 15 ans de vie plus ou moins commune avec Voltaire, la passion s'est émoussée. Et puis Voltaire aussi n'est pas parfait. Voltaire l'a trompé avec une actrice. Et puis quelques années plus tard, il va carrément déclarer sa flamme à sa nièce, Madame Denis. Et Émilie en sera ulcérée. Émilie sera très choquée de ça, mais elle pardonnera. Et lorsqu'à Lunéville, Voltaire et Émilie sont reçus à la cour de Stanislas et qu'elle rencontre Saint-Lambert, Émilie estime que le temps est passé et qu'elle peut très bien se permettre une aventure avec ce marquis de Saint-Lambert. Alors là, c'est très curieux parce que derrière cette femme de science qui est extrêmement dure, tyrannique, qui exige tout de son entourage, là on a la femme amoureuse, on découvre une femme amoureuse qui est prête à toutes les compromissions, prête à se perdre pour avoir même une lettre de Saint-Lambert. Saint-Lambert la fait lanterner, Saint-Lambert disparaît, ne donne pas de nouvelles. Elle lui écrit des lettres effrayantes dans lesquelles elle est prête à se suicider. La pauvre Émilie est méconnaissable, elle qui est un caractère volontaire, qui est très dur. Là, au contraire, c'est la femme qui s'abandonne et qui attend ce marquis qui se moque d'elle, d'une certaine manière. Et donc, en 1748, c'est cette grande aventure avec Saint-Lambert qui va poser problème car elle est en train de travailler aux éléments de la philosophie de Newton. Et elle se rend compte que ce travail est important, d'abord parce que c'est un texte qu'elle traduit du latin, qui est extrêmement difficile, auquel elle décide d'ajouter des commentaires. Donc ce sera la première fois qu'une femme va mettre des commentaires sur Newton, c'est quand même pas rien. Donc pour elle c'est très important, elle se rend compte que pour sa carrière, puisqu'elle a décidé d'être une femme savante qui laisse une trace, il faut que cette œuvre aboutisse. Mais évidemment, c'est très difficile de courir après Saint-Lambert et d'écrire ses principes de mathématiques. Et pourtant, elle s'y acharne et elle va aller encore plus vite lorsqu'elle se rend compte qu'elle est enceinte des œuvres de Saint-Lambert. Car elle prend peur et dès le moment où elle apprend qu'elle est enceinte, elle pense qu'elle va mourir. Elle pense qu'elle n'en réchappera pas. Et donc, elle va accélérer, elle va tout faire pour finir ses travaux, pour arriver au bout. Et elle va passer 6 mois à Paris. Voltaire, lui, va voyager, il sera encore à Lunéville, chez Stanislas, puis il revient la prendre à Paris. Elle s'installe 6 mois à Paris, où elle travaille, et elle travaille avec des horaires déments, toujours jusqu'à 3 heures du matin. Et d'ailleurs, Longchamp, qui a été aussi le secrétaire de Voltaire, racontera comment on ne peut pas la déranger lorsqu'elle est à sa table de travail, même pour le déjeuner, on peut rien lui dire. Si elle s'arrête, elle se lève, et à ce moment-là, on peut lui proposer un souper, quelque chose, un encas, mais sinon, il n'en est pas question, elle travaille des heures d'affilée, à impressionner tout son personnel. Et donc, elle avance énormément et malheureusement, comme elle est enceinte, se pose un problème. C'est que, avec la complicité de Voltaire, elle a fait admettre à son mari qu'il était le père de l'enfant. Mari très complaisant a accepté, il a retrouvé sa femme, ils ont passé quelques semaines ensemble et il a accepté de prendre la paternité de l'enfant. Bien. Mais, comme tout le monde est au courant de l'affaire Saint-Lambert, que toute la cour jase, elle ne peut pas accoucher à Paris. Donc, Stanislas va lui proposer de venir accoucher à Lunéville. Donc, elle revient à Lunéville. Évidemment, elle va retrouver Saint-Lambert. Et elle n'a toujours pas terminé sa traduction de Newton. Donc, tout en étant malade, parce que la fin de sa grossesse est un petit peu dure et difficile, en plus c'est la période d'été, il y fait très chaud, elle s'acharne à travailler et parfois même elle refuse sa porte à Saint-Lambert pour finir ses travaux. Et c'est à ce moment-là qu'elle accouche donc d'une petite fille. Tout se passe bien, Voltaire écrit à tout le monde en disant qu'elle a accouché d'une petite fille tout en faisant une formule mathématique. Et puis, malheureusement, les choses tournent mal. Et elle termine son manuscrit, elle met le point final à son manuscrit la veille de sa mort. Donc, Émilie du Châtelet est arrivée au bout du manuscrit. Et sachant qu'elle va mourir, elle décide, à la fin du manuscrit, elle écrit, elle demande qu'on remette ce manuscrit à la bibliothèque du roi. Et Voltaire, lui, sera extrêmement touché de cette mort, puisqu'il écrira une lettre émouvante à Frédéric II qui dit toute la peine de Voltaire.
J'ai perdu un ami de 25 années, un grand homme qui n'avait de défaut que d'être femme et que tout Paris regrette et honore. On ne lui a peut-être pas rendu justice pendant sa vie et vous n'avez peut-être pas jugé d'elle comme vous auriez fait si elle avait eu l'honneur d'être connue de votre majesté. Mais une femme qui a été capable de traduire Newton et Virgile et qui avait toutes les vertus d'un honnête homme aura sans doute part à vos regrets. L'état où je suis depuis un mois ne me laisse guère d'espérance de vous revoir jamais, mais je vous dirai hardiment que si vous connaissiez mieux mon cœur, vous pourriez aussi avoir la bonté de regretter un homme qui certainement dans votre majesté n'avait aimé que votre personne.
Émilie donc disparaît. Voltaire fera tout pour faire éditer le document. La Bibliothèque nationale va recevoir le manuscrit, mais Voltaire le fait éditer. Et c'est comme ça que Émilie du Châtelet est rentrée dans l'histoire. Cette exposition a été faite à la Bibliothèque nationale par Elisabeth Badinter, qui avait écrit il y a quelques années « Madame du Châtelet et Madame d'Épinay ou l'ambition féminine au XVIIIe siècle ». C'est un livre qui était paru chez Flammarion et qui ressort pour la circonstance. Et puis, il y a le catalogue Madame du Châtelet, la femme des Lumières, qui est aussi sous la direction d'Elisabeth Badinter et de Daniel Muserolles, qui sont les deux commissaires de l'exposition de la Bibliothèque nationale.
Thank you.